Imaginez un instant tenir entre vos mains un vieux document, genre une simple feuille ou une tablette d'argile, qui prétend raconter des événements survenus il y a 4000 ans.
C'est un peu le rêve de tout historien, ça.
Bah oui, complètement. Mais la vraie question, c'est de savoir si ce qu'on lit est un véritable témoignage historique ou juste un excellent mythe inventé de toutes pièces des siècles plus tard.
Et vu qu'on ne peut évidemment pas interroger les auteurs, ni regarder des archives vidéo de l'époque, on est un peu coincé.
C'est clair. La seule solution qui semble logique, en fait, c'est de creuser, d'aller dans la terre pour chercher des preuves matérielles tangibles.
Sauf que la Terre, elle aussi, elle peut nous mentir.
Ou pire, on peut lui faire dire exactement ce qu'on a envie d'entendre. Et ça, c'est le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui.
Exactement.
Notre mission pour cette plongée dans les sources, c'est de voir comment la science moderne tente de vérifier ces anciens textes. Et plus spécifiquement, on va s'attaquer aux récits bibliques des patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob.
Sont-ils de l'histoire pure ou du mythe? C'est la grande question.
Voilà. Et pour mener cette enquête, on se base sur un matériel très dense. Ce sont les notes de la conférence numéro 19 du docteur Robert Van Hoy, une conférence consacrée à l'histoire de l'Ancien Testament et à l'archéologie. Bon, décortiquons un peu tout ça. Par où est-ce qu'on commence quand on veut confronter un texte aussi ancien à la dure réalité du terrain?
Ben, la toute première étape, selon le docteur Van Hoy, c'est déjà de faire preuve d'une humilité monumentale vis-à-vis nos propres outils.
C'est-à-dire?
Eh bien, avant même de juger le texte, il faut juger la discipline qui l'évalue. On a tous tendance, tu vois, à percevoir l'archéologie comme une science super exacte. On trouve une ruine, on la date, et hop, on a une certitude.
C'est l'image qu'on en a, ouais. Les pierres ne mentent pas, quoi.
Sauf que la réalité du terrain, c'est que les preuves archéologiques sont extrêmement fragmentaires et surtout, elles sont profondément provisoires.
Provisoire, je...
Ouais, totalement. Il y a un cas d'école absolument dingue dans notre source qui illustre parfaitement cette illusion de certitude. Ça implique un archéologue très respecté qui s'appelait Nelson Gluck.
Ah, d'accord. Et quel était son projet de recherche à lui? Qu'est-ce qu'il cherchait exactement dans la Terre?
En fait, il travaillait dans les années 1930 sur le site d'Hésion-Gébert. Son objectif était directement lié au texte du premier livre des rois.
Le passage qui mentionne le roi Salomon.
C'est ça. Le texte dit que Salomon avait construit une flotte de navires sur les rives de la mer Rouge. Du coup, Gluck cherchait des traces de cette fameuse activité salomonienne. Et en 1939, il fait une découverte majeure.
Des bateaux?
Non, pas des bateaux. Il trouve les fondations d'un bâtiment très imposant. Mais ce bâtiment avait une architecture vraiment étrange. Il comportait deux rangées de trous, régulièrement espacés, directement dans ses murs.
Des trous dans les murs?
Pour faire quoi? C'est la question qu'il s'est posée. En observant l'environnement, Gluck remarque que la structure est positionnée de manière super inhabituelle, exactement dans l'axe des vents violents qui s'engouffrent depuis la vallée de l'Araba au nord.
Attends, s'il y a des vents très forts, normalement on construit à l'abri, non? Pas en plein milieu d'un courant d'air. Donc il en a déduit que cet emplacement était intentionnel.
Mais exactement, il a conclu que ces trous n'étaient pas du tout architecturaux, mais fonctionnels. Pour lui, c'était un système complexe de conduits d'aération.
Conçu pour capter le vent.
Voilà, pour capter ces vents puissants et attiser d'immenses flammes. Sa conclusion officielle, qu'il a publiée en 1939, affirmait haut et fort qu'il venait de mettre au jour le tout premier et le plus grand au fourneau de l'Antiquité pour fondre le minerai de cuivre.
Ah ouais, carrément, hein.
Il a même qualifié le site de Pittsburgh de l'ancienne Palestine.
C'est une sacrée formule.
Il imaginait vraiment un véritable complexe industriel antique tournant à plein régime sous le règne de Salomon.
Et j'imagine que cette théorie, elle collait parfaitement avec l'idée d'un roi Salomon extrêmement riche qui contrôlait le commerce des métaux. C'est le genre d'image très puissante qu'on a envie de croire. Mais tu parlais de preuves provisoires tout à l'heure. J'en déduis que l'histoire ne s'arrête pas là.
Ah, loin de là. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette interprétation erronée s'est cristallisée. Tout le monde y a cru.
C'est devenu la vérité officielle.
Absolument. Tous les manuels d'histoire de l'époque ont repris l'information. L'affaire semblait définitivement classée. Et pourtant, plus de 25 ans plus tard, en 1965, devine quoi?
Nelson Gluck lui-même publie un nouvel article. Ne me dis pas qu'il annule tout.
Si? Il se rétracte de A à Z.
C'est pas vrai. Mais comment on passe d'un complexe industriel géant à une rétractation totale? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 25 ans?
Eh bien, l'archéologie a évolué, tout simplement. D'autres chercheurs ont fouillé de nouveaux sites dans la région, ce qui a révélé de nouvelles techniques de construction typiques de cette époque.
Et en comparant les données, ils ont vu le problème.
Voilà. Il est devenu évident que ces fameux conduits d'aération pour le vent, c'était pas du tout ça, c'était juste les emplacements de poutres en bois qui étaient incrustés dans la maçonnerie pour stabiliser le mur.
Ah, d'accord.
Le bois a fini par pourrir ou peut-être brûler avec le temps, et il ne restait plus que les trous.
C'est tellement moins glamour. Et pour le cuivre, alors?
Oui, on fondait bien du cuivre dans la région, c'est vrai. Mais les fouilles ultérieures ont montré que ça se faisait dans du minuscule creuset individuel.
Donc on est loin du haut fourneau industriel?
Très loin. Ça se faisait sur des petits feux de charbon rudimentaires. Ça produisait à peine quelques centimètres de métal à la fois. Le grand Pittsburgh antique de Salomon n'a en fait jamais existé.
C'est fou. C'est comme si dans 1000 ans, quelqu'un retrouvait les fondations d'un vieux garage de banlieue avec quelques taches d'huile au sol et publiait une thèse affirmant qu'il s'agissait d'un temple sophistiqué dédié au culte de l'automobile.
C'est une excellente comparaison.
Les éléments factuels sont là, tu vois. Il y a de l'huile, une rampe, de l'espace. Mais la conclusion est totalement déconnectée de la réalité. Je suis fascinée, mais ça rend la fiabilité de la discipline assez troublante.
Et le pire, c'est que le débat ne s'arrête même pas à la fonction du bâtiment. La chronologie elle-même, c'est un immense terrain glissant. Notre source évoque un autre chercheur, Benoît Rothenberg. En 1972, il reprend les fouilles dans cette zone.
Et il trouve quoi, lui ?
Sa conclusion, c'est que toute l'activité minière a eu lieu des siècles avant Salomon.
Ah, carrément avant !
Oui, à l'époque de Moïse. Et puis, selon lui, tout s'est arrêté. Donc Salomon n'y est pour rien. Mais, attention, rebondissement, en 1981, un autre archéologue, G. Bimson, réévalue les tests au carbone 14.
Oh là là, ça ne s'arrête jamais.
Non. Bimson affirme que Rothenberg est allé beaucoup trop vite en besogne et que finalement, l'époque de Salomon reste très probable pour ce site.
C'est dingue. On a tous cette image d'une science froide et objective, tu sais. Une pierre, ça ne ment pas. Le carbone 14, ça relève de la physique pure pour nous. Mais si je t'écoute bien, le simple fait de fouiller un trou dans la terre implique une subjectivité énorme. Comment c'est possible ?
C'est parce que détruire pour analyser, c'est la nature même de l'archéologie. C'est très paradoxal.
C'est-à-dire ?
Quand on fouille un carré de terre, disons, de 4 ou 5 mètres, on le démantèle couche par couche. On ne peut pas recommencer. Le site est détruit. Et à chaque coup de truelle, le directeur des fouilles prend des décisions subjectives sur ce qui est important ou non.
C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça ?
Le docteur Van Wey cite l'exemple frappant de la ville d'Haï. Le texte biblique raconte une grande bataille menée par Josué pour conquérir cette ville.
Oui, c'est un épisode très connu.
Or, les archéologues, qui ont fouillé le monticule supposé être Haï, sont catégoriques. Il n'y avait aucune occupation humaine à l'époque de Josué. Zéro. Le site était complètement désert.
Ce qui voudrait dire, en gros, que le texte biblique a inventé une bataille épique contre une ville fantôme.
C'est exactement la conclusion rapide que beaucoup de gens ont tirée. Mais la source souligne une autre possibilité. Une possibilité tout aussi probable.
Laquelle ?
Et s'il ne creusait tout simplement pas au bon endroit ?
Ah ! L'erreur géographique.
Exactement. L'identification des sites anciens, c'est un casse-tête monumental. Van Hoy mentionne que ce monticule pourrait très bien ne pas être Haï du tout, mais avoir été confondu avec la ville voisine de Bethel.
Donc ils auraient fouillé la mauvaise colline.
C'est très possible. Et si une autre équipe, avec des idées préconçues différentes, venait fouiller le même endroit, elle pourrait interpréter les couches de destruction, les morceaux de poterie ou la datation d'une manière totalement différente. Juste pour faire coller les données à ses propres attentes.
C'est le biais de confirmation à l'état pur, en fait. Mais appliqué à la poussière et aux cailloux, on trouve ce qu'on a secrètement envie de trouver.
Absolument. Et ce biais, il ne reste pas sur le terrain. Il se propage jusqu'à la manière dont les découvertes sont diffusées au public.
C'est-à-dire dans les publications scientifiques.
Oui. La source raconte une anecdote très révélatrice sur une véritable guerre des revues dans ce milieu. Pendant longtemps, la référence absolue, c'était le Biblical Archaeologist.
D'accord.
Mais c'était une publication très aride, très technique, difficile d'accès pour les non-initiés. Et soudain, paf, est arrivé le Biblical Archaeology Review.
Le concurrent direct.
Voilà. Et lui, il était beaucoup plus coloré, avec des titres super accrocheurs, une mise en page moderne et un ton nettement plus grand public. Et politiquement parlant, beaucoup plus conservateur dans ses conclusions.
Et ça a marché ?
Le succès était tellement fulgurant que l'ancienne revue académique a failli disparaître purement et simplement. Ils ont dû revoir totalement leur design et leur formule pour survivre. Ça montre bien que la vérité scientifique, elle dépend aussi grandement du format éditorial qui la met en scène.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on applique cette incroyable malléabilité des faits archéologiques au plus gros dossier de ce domaine, les enjeux deviennent carrément explosifs.
Tu penses à quoi, Eve ?
Je parle bien sûr de la période patriarcale, les chapitres 11 à 50 de la Genèse, le grand débat. Abraham a-t-il seulement existé ? Comment les chercheurs abordent-ils une question aussi colossale, sachant qu'on n'arrive même pas à s'entendre sur un bâtiment avec des trous d'aération ?
Eh bien, sur cette question précise, l'histoire de la recherche fonctionne comme un grand balancier. Au début du XXe siècle, l'approche dominante, c'était le scepticisme absolu.
D'accord.
Un mouvement mené par un chercheur nommé Julius Wellhausen. Pour lui, c'était réglé, fini. La période patriarcale n'a jamais existé historiquement.
Mais attends, quelle était sa logique ? S'il n'y avait pas de preuves archéologiques pour contredire fermement l'existence d'Abraham, comment il pouvait affirmer avec autant de certitude qu'il s'agissait d'un mythe ?
C'est parce que Wellhausen argumentait à partir du texte lui-même, en utilisant l'analyse littéraire critique. Il postulait que ces histoires avaient été rédigées très tardivement, pendant la période de l'exil d'Israël à Babylone.
Donc près d'un millénaire après l'époque supposée d'Abraham ?
Exactement. Selon cette théorie, un peuple en exil, qui a tout perdu, avait désespérément besoin de se forger une identité nationale forte, une origine glorieuse.
Pour se rassurer.
Oui. Les récits d'Abraham ne seraient donc qu'une projection idéologique. Wellhausen disait en substance que lire la Genèse ne nous apprend strictement rien sur une prétendue époque patriarcale, mais nous informe uniquement sur la psychologie des exilés qui ont inventé le texte.
D'accord, c'est l'approche minimaliste radicale. On annule complètement l'historicité. Mais tu as mentionné un balancier tout à l'heure. J'imagine qu'il a fini par repartir dans l'autre sens.
Tout à fait. Le grand retournement est venu au milieu du XXe siècle avec des figures majeures de l'archéologie comme W.F. Albright et l'historien John Bright.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau ?
Tellement ancrés dans le deuxième millénaire qu'il était absurde de penser qu'ils avaient été inventés 1000 ans plus tard par des exilés.
Ils disaient que les auteurs n'auraient pas pu inventer ça sans connaître le contexte de l'époque.
Exactement. Pour eux, ces hommes, les patriarches, avaient réellement foulé la terre du Moyen-Orient. Et cette vision optimiste, elle a dominé le milieu pendant des décennies.
Mais je suis sûre que cette tranquillité académique n'a pas duré éternellement. La source mentionne un nouveau coup de tonnerre dans les années 70, c'est bien ça, hein ?
Oui, les années 1970 voient émerger une nouvelle vague de minimalistes, portée par des noms comme Jevan Setters et T.L. Thompson.
Thompson, oui.
Thompson, il a publié un livre affirmant de manière assez brutale que, je cite, « L'histoire du salut ne s'est pas produite. Il remettait en cause toutes les preuves accumulées par l'école précédente. »
Waouh !
Et d'ailleurs, la façon dont ce fameux livre a été conçu, c'est l'une des petites histoires les plus savoureuses partagées par le docteur Van Hoy dans ses notes.
Ah, j'adore quand la grande histoire académique croise la petite histoire humaine. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, le docteur Van Hoy raconte qu'un jour, il se trouvait dans la bibliothèque de son propre séminaire, une institution qui, il faut le préciser, était plutôt conservatrice.
D'accord.
Un étudiant vient le voir et lui signale la présence d'un chercheur revenu d'Europe qui consulte silencieusement les archives dans un coin. Van Hoy va le saluer, il discute cordialement de tout et de rien.
Très poli.
Très poli, oui. Mais ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il réalise avec stupeur que cet homme si poli et discret n'était autre que T.L. Thompson en personne.
Le grand sceptique est dans la bergerie conservatrice.
C'est ça. Et le plus fou, c'est qu'à l'époque, Thompson n'était rattaché à aucune grande université prestigieuse. Il vivait très modestement dans un parc de mobil-home de la région pendant que sa femme travaillait pour subvenir à leurs besoins.
Incroyable.
Et donc, depuis ce petit mobil-home, en utilisant discrètement la bibliothèque d'une institution qui défendait bec et ongles l'historicité de la Bible, il rédigeait la thèse qui allait attaquer et tenter de dynamiter définitivement les fondations de l'archéologie biblique classique.
C'est une image cinématographique, vraiment. Le chercheur isolé dans son mobil-home qui prépare une bombe académique avec les livres de ses adversaires.
C'est fascinant.
Mais alors, face à ce scepticisme renouvelé qui affirme qu'Abraham n'est qu'un mythe tardif, comment les historiens modernes peuvent-ils répliquer ? Si les ruines locales en Israël sont sujettes à caution et qu'on ne peut rien prouver directement sur le sol, où est-ce qu'ils vont chercher des faits tangibles ?
C'est là qu'ils ont eu une idée de génie. Il contourne le problème géographique. Si l'on ne peut pas trouver la maison d'Abraham avec une plaque à son nom, on va analyser le monde dans lequel le texte affirme qu'il a vécu.
Le contexte global, en gros.
Exactement. Le contexte sociétal et géopolitique du deuxième millénaire avant notre ère, dans tout le reste du Moyen-Orient. Et c'est là qu'entrent en jeu des découvertes colossales, des archives entières d'États voisins.
Comme quoi, par exemple ?
Prenons les textes de Marie, découverts près de l'Euphrate, dans la Syrie actuelle. On parle de plus de 20 000 tablettes en argile, datant du XVIIIe siècle avant notre ère.
20 000 tablettes ? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent de si crucial par rapport à la Bible ?
Elles décrivent la vie diplomatique et religieuse de cette époque avec une précision folle. Par exemple, elles détaillent des pratiques de divination très particulières où les prêtres prédisaient l'avenir en examinant attentivement les anomalies sur les foies de moutons sacrifiés.
Les foies de moutons, charmant.
Très spécifique à cette culture. Mais au-delà de ces détails fascinants, ces textes mentionnent à plusieurs reprises une ville spécifique, une ville appelée Nahor.
Attends, Nahor, c'est pas le nom du frère d'Abraham ?
Exactement, c'est le frère d'Abraham et c'est aussi la région d'où vient Rebecca dans le récit de la Genèse. Ça veut dire que le décor géographique et nominal de l'époque correspond au texte biblique.
D'accord, c'est un très bon début. Mais bon, une ville portant le même nom, ça pourrait juste être une simple coïncidence, tu vois, ou un nom qui a survécu très longtemps. Est-ce qu'on a des preuves plus, disons, intimes, des choses liées au comportement même des personnages ?
Et c'est là que les textes de Nouzi deviennent absolument décisifs. Ce sont des documents découverts en Irak qui datent du 15e siècle avant notre ère.
Que contiennent-ils ?
Ils contiennent les lois et les coutumes sociales très strictes des populations de l'époque. Et le truc dingue, c'est que ces lois éclairent des passages de la Genèse qui nous semblent totalement absurdes aujourd'hui.
Donne-moi un exemple.
Par exemple, dans la Genèse, avant la naissance de son fils biologique, Abraham se lamente. Il se plaint à Dieu en disant que son héritier officiel sera l'un de ses serviteurs, qui s'appelle Eliezer.
C'est vrai que pour nous, c'est hyper étrange. Pourquoi est-ce qu'un serviteur hériterait de tout le patrimoine de son maître ? Légalement, ça ne fait aucun sens de nos jours.
Eh bien, à Nouzi, les textes juridiques stipulent noir sur blanc qu'un couple sans enfant a le droit et même le devoir social d'adopter un serviteur de confiance pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours.
Et en échange, ce serviteur hérite de tout ?
Exactement. Mais attention, le texte de Nouzi précise une clause fondamentale. Si un fils naturel vient à naître plus tard, après l'adoption, le serviteur adoptif perd immédiatement son statut d'héritier principal au profit de ce nouveau fils biologique.
C'est fou.
C'est ça ?
Exactement, point par point, le dilemme décrit dans le texte biblique concernant Abraham, Eliezer et la naissance de son fils Isaac ensuite.
Voilà. Et l'argument des historiens, il est simple. Si la Genèse avait été inventée 1000 ans plus tard pendant l'exil à Babylone, comme le prétendait Wellhausen, les auteurs auraient été bien incapables de décrire avec une telle précision une loi obscure d'une civilisation mésopotamienne disparue depuis des siècles.
Ah, je comprends mieux l'argument d'Albright maintenant. Le comportement même des personnages valide l'ancienneté du récit.
C'est ça. Et les preuves géopolitiques s'accumulent le sud également. La source mentionne les textes d'exécration égyptiens.
Des textes d'exécration. Ça sonne très sombre.
C'était un rituel magique. À l'époque des patriarches, les pharaons inscrivaient les noms de leurs ennemis, y compris de nombreux rois et cités de la région de Canaan, sur des bols en argile ou des figurines représentant des prisonniers attachés.
Et ensuite, j'imagine qu'ils ne les rangeaient pas sur une étagère ?
Non, ils brisaient violemment ces objets lors de cérémonies pour maudire ses ennemis. Et aujourd'hui, les débris de ces bols maudits nous confirment l'organisation géopolitique très précise de Canaan au deuxième millénaire.
Donc ça confirme le paysage politique traversé par Abraham. Il y a aussi ces fameuses tablettes d'Ebla dont on entend souvent parler. La source note qu'elles ont été trouvées en Syrie dans les années 70.
Oui, elles datent d'environ 2400 avant notre ère.
C'est encore plus vieux. Notre source mentionne qu'il y a 17 000 tablettes et qu'elles mentionneraient des noms très proches de ceux de la Bible, comme des villes de la région de Sodome et Gomorre. Mais la source précise aussi, de manière très factuelle, que l'accès à ces informations est devenu un véritable champ de mine politique aujourd'hui.
C'est un sujet très délicat en effet.
Les autorités syriennes actuelles sont extrêmement réticentes à laisser circuler des données anciennes qui pourraient être utilisées, à tort ou à raison, pour légitimer des revendications historiques ou territoriales juives dans la région.
C'est ça.
On rapporte juste ce que dit la source, on ne prend pas parti, mais c'est un rappel assez brutal que décrypter l'histoire ancienne, ça peut avoir des répercussions diplomatiques immédiates. L'archéologie n'est jamais vraiment déconnectée du présent.
Tout à fait. Et si on relie cela à la situation dans son ensemble, l'historienne John Bright estime que le coup de grâce contre le scepticisme absolu, il vient d'une discipline très précise. L'onomastique.
L'onomastique, c'est l'étude des noms propres, non ?
Exactement. Les chercheurs se sont rendus compte que les noms portés par les patriarches et leurs descendants, des noms comme Abraham, Jacob, Gad, Dan ou Zabulon, sont extrêmement courants dans les archives de Marie, d'Ebla et d'Égypte au cours du deuxième millénaire avant notre ère.
Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi l'étude des prénoms serait-elle l'argument massu? C'est un peu comme si, tu vois, l'on découvrait aujourd'hui un journal intime prétendument écrit par un paysan français sous la Révolution, en 1789.
Oui.
Si les personnages s'appellent Gustave, Honoré et Jean-Baptiste, le texte gagne en crédibilité. Mais si le héros paysan s'appelle Hanzo et que ses meilleurs amis sont Kilian et Timéo...
Là, on a un problème.
Bah oui, on sait immédiatement, sans l'ombre d'un doute, que c'est un faux rédigé de nos jours. Les noms de famille, les prénoms trahissent toujours l'époque à laquelle ils ont été choisis.
C'est l'analogie parfaite. Bright démontre que ces noms anciens du deuxième millénaire disparaissent presque totalement des archives lors des époques suivantes, notamment pendant la monarchie israélite et la fameuse période de l'exil.
Donc, CQFD.
CQFD. Si un auteur du VIe siècle avant notre ère avait voulu forger de toutes pièces une mythologie sur les origines de son peuple pour les réconforter, il aurait inévitablement utilisé des noms contemporains de son époque. Des noms familiers pour ses lecteurs.
C'est logique.
Le fait que les récits de la Genèse regorgent de noms authentiques et spécifiques à l'âge du bronze moyen, des noms qui n'étaient carrément plus utilisés par la suite, ça prouve de manière éclatante que le noyau de ces textes plonge ses racines profondément dans la réalité historique de cette époque lointaine, et non dans l'imagination d'un scribe exilé.
C'est une démonstration implacable. Et je trouve que ça boucle la boucle de notre analyse d'aujourd'hui, tout en soulevant une question fondamentale pour ceux qui nous écoutent.
Laquelle ?
Bah, pourquoi est-ce qu'on devrait se passionner pour des histoires de poutres pourries dans un désert, ou des lois d'adoption mésopotamiennes vieilles de 4 millénaires ?
C'est une bonne question.
Au-delà du débat purement biblique, cette exploration, c'est une véritable leçon d'humilité face au savoir. Que l'on analyse des ruines poussiéreuses au Proche-Orient, ou que l'on traite des volumes massifs de données modernes pour prendre une décision stratégique dans une entreprise aujourd'hui, le danger reste le même.
Le biais de confirmation ?
Exactement. Nos interprétations sont presque toujours façonnées, voire complètement déformées par ce que l'on espère secrètement y trouver. Le savoir le plus précieux ne réside pas dans l'accumulation de données brutes, mais vraiment dans notre capacité à accepter l'incertitude.
C'est très dur à faire d'ailleurs.
Oui, c'est la capacité à admettre que nos conclusions sont provisoires et qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de changer d'avis, comme l'a fait Gluck quand de nouveaux faits contredisent nos certitudes.
Et puisque nous parlons de la façon dont le présent interprète le passé, je voudrais soumettre une dernière réflexion un peu provocatrice à notre audience.
Vas-y, je t'écoute.
Pensez à l'archéologue Nelson Gluck et à son haut fourneau imaginaire qu'il a cru voir dans des trous d'aération. Maintenant, imaginez des archéologues dans 3000 ans, dans le futur.
D'accord.
Le monde tel que nous le connaissons a disparu. Et toute capacité technologique de lire nos données numériques s'est complètement évaporée.
C'est un scénario classique, mais très plausible.
Ces chercheurs du futur déterrent alors l'une de nos immenses fermes de serveurs informatiques. Ils arpentent ces gigantesques entrepôts climatisés et ils observent ces rangées infinies de tours silencieuses, de câbles soigneusement tressés et de systèmes de refroidissement perfectionnés.
Sans pouvoir lire le moindre octet de données.
Exactement. En l'absence totale du moindre contexte numérique ou logiciel, quelles conclusions totalement absurdes, magiques ou même religieuses tireraient-ils sur ces immenses temples de métal et sur ce que notre civilisation y vénérait avec autant de dévotion ?